Chapitre 84. Un parrain d'Amérique. Il se fit un instant de silence pendant lequel Pierre Berthault fixa sur son filleul un regard qui semblait vouloir lire dans le plus profond de son âme. « Et à combien s'élèvent nos dettes, à peu près ?»« À peu près, » demanda Pétrus en souriant. « Oui, les dettes, mon gars, c'est comme les défauts, » dit le capitaine, « on n'en sait jamais le chiffre exact. » « Je sais pourtant celui des miennes, » dit Pétrus. « Toi ? Oui, moi. Eh bien, cela prouve que tu es un homme d'ordre, filleul. Voyons le chiffre. » Et Pierre Berthault se renversa dans son fauteuil, cligna des yeux et tourna ses pouces l'un autour de l'autre. « Mes dettes s'élèvent à 33 000 francs, » dit Pétrus. « Ah, 33 000 francs !» s'écria le capitaine. « Ah !» fit Pétrus, qui commençait à s'amuser des originalités de son second père, comme s'était intitulé le marin, « vous trouvez le chiffre exorbitant, n'est-ce pas ?»« Exorbitant, mais c'est-à-dire que je ne m'explique pas comment tu n'es pas mort de faim, mon pauvre garçon. 33 000 francs, mais à ton âge, si j'eusse vécu sur terre, j'aurais dû 10 fois cette somme, et c'eût été bien peu encore auprès de ce que devait César. Nous ne sommes César ni l'un ni l'autre, mon cher parrain, de sorte que vous me permettrez, comme je l'ai déjà dit, de trouver le chiffre exorbitant. Exorbitant, quand on a 100 000 francs dans chaque poil de sa brosse, car j'ai vu tes tableaux et je m'y connais, moi qui ai vu les Flamands, les Italiens et les Espagnols, eh bien ta peinture est tout simplement de la peinture de la grande école. Tout beau, parrain, répondit modestement Pétrus. C'est de la grande peinture, te dis-je, insista le marin. « Eh bien, quand on a l'honneur d'être un grand peintre, on ne peint pas à moins de 33 000 francs de dettes par an. C'est un chiffre fixe, cela. Le talent représente un capital d'1 000 000, que diable. Et avec la réduction de Monsieur de Villèle, eh bien, 33 000 francs font juste la rente d'1 000 000. « Ah, mon parrain, dit Pétrus, savez-vous quelque chose ? Laquelle, filleul ? C'est que vous avez de l'esprit. » « Oh !» fit Pierre Berthault. « N'en faites pas fi, je connais de très honnêtes gens qui s'en contenteraient. Des gens de lettres ? Oh, encore ! Ah non, c'est fini, revenons à tes dettes. Vous y tenez donc bien ? Oui, car j'ai une proposition à te faire. Relativement à mes dettes ? Relativement à tes dettes. Voyons, en fait... « Vous êtes un si singulier homme, parrain, que de votre part je m'attends à tout. »« Eh bien, voici ma proposition. Je t'offre de devenir à l'instant même ton unique créancier. »« Plaît-il ? Tu dois 33 000 francs, et c'est pour les payer, n'est-ce pas, que tu vends tes meubles, tes tableaux, tous tes bric-à-brac. » Hélas, fit Pétrus, l'évangile n'est pas plus vrai. Eh bien, je paye les 33 000 francs et tu gardes les bric-à-brac, les tableaux et les meubles. Pétrus regarda sérieusement le marin. Que voulez-vous dire, monsieur ? Lui demanda-t-il. Ah bon, il paraît que j'ai pris mon filleul à rebrousse-poil, dit Pierre Berthault. Excusez-moi, monsieur le comte de Courtenay, je croyais parler au fils de mon vieil ami Herbel. « Eh bien oui, 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 » dit vivement Pétrus. « Oui, cher parrain, vous parlez au fils de votre bon ami Herbel, et c'est lui qui vous répond et qui vous dit « Ce n'est pas le tout que d'emprunter 33 000 francs, même à son parrain, il faut savoir comment on les lui rendra. »« Comment tu me les rendras, filleul ? C'est bien facile, tu me feras un tableau d'après cette esquisse. » Et il montrait à Pétrus le combat de la belle Thérèse contre la Calypso. « Un tableau de 33 pieds de long sur 16,5 de hauteur, » reprit-il. « Tu me mettras sur le pont, près de ton père, au moment où je lui dis « Je serai le parrain de ton premier Herbel et nous serons quittes. »« Mais où mettrez-vous un tableau de 33 pieds de long ?»« Dans mon salon. » »« Mais vous ne trouverez jamais une maison avec un salon de 33 pieds de long. »« J'en ferai bâtir une exprès. » « Alors, vous êtes donc millionnaire, parrain ?»« Si je n'étais que millionnaire, mon enfant, » dit Pierre Berthault d'un ton dédaigneux, « j'achèterais du 3%, je me ferais 40 à 50 000 livres de rente et je vivoterais. »« Oh, oh, fit Pétrus. Mon cher ami, reprit le capitaine, laisse-moi te dire en deux mots mon histoire. Dites. Au moment où je me suis séparé de ton brave homme de père à Rochefort, je me suis dit, voyons, père Berthaud, il n'y a plus rien à faire en France avec l'honnête état de la piraterie, faisons le commerce. En conséquence, je fis du lest avec mes canots et je me mis à vendre du bois d'ébène. C'est-à-dire que vous fîtes la traite, cher parrain. Cela s'appelle-t-il faire la traite ? Demanda naïvement le capitaine. Mais je crois que oui, répondit Pétrus. Ce petit commerce me fit vivre 3 ou 4 ans, et en outre me mit en relation avec l'Amérique du Sud, de sorte que, lorsque l'insurrection éclata, désespérant de la fortune de l'Espagne, nation vermoulue et décrépite, je me mis au service de Bolivar. J'avais deviné le grand homme. Alors, cher parrain, dit Pétrus, vous êtes un des libérateurs du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade, un des fondateurs de la Colombie. Je m'en vante, filleul. Seulement, comme l'abolition de l'esclavage fut proclamée, je résolus de faire fortune d'une autre façon. J'avais cru remarquer, aux environs de Quito, un terrain orné de pipites d'or. J'étudiai scrupuleusement l'endroit, je reconnus une mine et j'en demandai la concession. En vertu de services rendus par moi à la République, la susdite concession me fut accordée. Au bout de 6 ans d'exploitation, j'avais réalisé la modique somme de 4 millions, et je cédai la dite exploitation, moyennant 100 000 piastres, autrement dit 500 000 livres par an. Cette cession faite, je suis revenu en France, où mon intention est de me faire un établissement confortable avec mes 4 millions, et de vivre de mes 500 000 livres de rente. Approuves-tu le projet, filleul ?
Parfaitement.
Or, je n'ai pas d'enfants, pas de parents, ou des arrière-cousins que je ne connais même pas de vue. Je ne me marierai jamais. Que veux-tu que je fasse de ma fortune, si toi à qui elle appartient de droit ?
Capitaine.
Encore, si toi à qui elle appartient de droit, tu commences par refuser les 33 000 francs que je t'offre.
J'espère que vous comprendrez ma répugnance, cher parrain.
Ah non, j'avoue que je ne la comprends pas. Je suis célibataire, je suis démesurément riche, je suis ton second père, je t'offre une bagatelle, et tu refuses. Mais sais-tu, garçon, que pour la première fois que nous nous revoyons, tu me fais là une mortelle injure.
Ce n'est point mon intention.
Que ce soit ou que ce ne soit pas ton intention, dit le capitaine d'un ton pénétré, tu ne m'en as pas moins fait un profond chagrin, tu ne m'en as pas moins blessé au cœur.
Pardonnez-moi, cher parrain, dit Pétrus alarmé, mais je m'attendais si peu à cette offre que je n'ai pas été maître de moi lorsque je vous ai entendu me la faire, et que je ne l'ai peut-être pas reçue avec toute la reconnaissance que je vous dois. En ce cas, je vous fais toutes mes excuses.
Et tu acceptes ?
Je ne dis pas cela.
Si tu refuses, sais-tu ce que je vais faire ?
Non.
Eh bien, je vais te le dire.
Pétrus attendit. Le capitaine tira de la poche de côté de son habit un portefeuille qui paraissait grassement garni et l'ouvrit. Le portefeuille était bourré de billets de banque.
« Je prends 33 billets de banque dans son portefeuille, où il y en a 200, je les roule en tampons, j'ouvre la fenêtre et je les jette dans la rue. »«
Pourquoi faire ? » demanda Pétrus.
« Pour te prouver le cas que je fais de mes chiffons de papier. »
Et le capitaine se mit à rouler en tampon une 12aine de billets de banque, comme s'il avait affaire à du simple papier Joseph. Après quoi il se leva pour aller le plus sérieusement du monde à la fenêtre. Pétrus l'arrêta.
« Voyons, dit-il, pas de folie, et transigeons. 33 000 francs ou la mort, dit le capitaine. »
« Non, pas 33 000 francs, attendu que je n'ai pas besoin de 33 000 francs. »
33 000 francs ou...
Sacrebleu, écoutez-moi donc à votre tour, ou je vais jurer comme un matelot. Je vous prouverai que je suis fils de corsaire, mille sabords.
L'enfant a dit papa, s'écria Pierre Berthaud, Dieu est grand. Écoutons ses propositions.
Oui, écoutez, je suis gêné parce que, comme vous l'avez dit, cher parrain, j'ai fait de folles dépenses. Il faut bien que jeunesse se passe. Mais je n'eusse point été gêné en faisant ces folles dépenses si, en même temps que je les faisais, je n'eusse été un paresseux. On ne peut pas toujours travailler. Mais je suis décidé à me remettre à la besogne. Et les amours ? Pétrus rougit. Les amours et le travail peuvent aller de pair. Je suis donc décidé à piocher, comme on dit. Soit piochons, mais les Anglais, autrement dit les créanciers, en attendant que nous ayons tiré parti de notre pinceau, il faudra les arroser, comme on dit, en termes de jardinage. C'est justement cela. Eh bien, dit le capitaine en présentant son portefeuille à Pétrus, voilà l'arrosoir, mon garçon. Je ne te force pas la main, prends ce que tu voudras. À la bonne heure, dit Pétrus, vous devenez raisonnable et je vois que nous allons nous entendre. Pétrus prit 10 000 francs et remit le portefeuille à Pierre Berthaud qui le suivait du coin de l'œil. 10 000 francs, fit le capitaine. Le premier marchand de peau de lapin venu t'aurait prêté cette somme à 6%. Ah, à propos, pourquoi ne me parles-tu pas d'intérêt ? Cher parrain, tout simplement parce que je croirais vous offenser. Pas du tout, et je vais t'en demander, moi, des intérêts. Faites. Je suis arrivé d'hier à Paris avec l'intention d'acheter une maison et de l'aménager du mieux qu'il me sera possible. Bien. Mais avant que j'aie trouvé une coque à ma convenance, il faut bien compter 8 jours. C'est le moins. Avant que cette maison soit meublée, il faudra bien en compter 8 autres. Mettons-en 15, je ne veux pas te contrarier. Cela fait 3 semaines. 22 jours. Ah, tu ne vas pas me chicaner pour un tour de cadran. Alors je retire ma proposition.
Quelle proposition ?
Celle que j'allais te faire.
Et pourquoi la retirez-vous ?
Parce que je vois bien qu'avec un caractère aussi taquin que le tien et aussi têtu que le mien, nous ne pourrons pas vivre ensemble.
Vous comptiez donc vivre avec moi ? Demanda Pétrus.
Ma foi, je trouve, dit le capitaine, qu'arrivé depuis hier à l'hôtel du Havre, j'en ai déjà par-dessus la tête. Je comptais donc te dire, Pétrus, mon cher filleul, mon brave garçon, as-tu une chambre, un cabinet, une mansarde, un endroit grand comme cela, où l'on puisse suspendre un hamac ? As-tu cela pour le pauvre capitaine Berthaud Mont-Auban ?
Comment donc ? S'écria Pétrus, enchanté de pouvoir faire à son tour quelque chose pour un homme qui mettait avec tant de simplicité une fortune à sa disposition.
Oui, reprit le capitaine, mais tu comprends, si cela t'était désagréable d'une façon ou d'une autre, si cela te gênait le moins du monde, dame, il faudrait me le dire.
Comment diable pouvez-vous supposer cela ?
Hein, c'est que vois-tu, avec moi, c'est oui ou non, la franchise sur les lèvres, le cœur sur la main.
Eh bien, le cœur sur la main, la franchise sur les lèvres, je vous dis, cher parrain, rien ne peut m'être plus agréable que la proposition que vous me faites.
Seulement quoi ? Mais, dame, les jours où j'aurai modèle, les jours où j'aurai séance, ah, compris, liberté, libertas, ah, voilà que vous parlez arabe à votre tour.
Ah, je parle arabe, c'est donc sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose.
Bon, voilà que vous citez Molière maintenant. En vérité, cher parrain, vous êtes quelquefois d'une érudition qui m'épouvante. J'ai peur que l'on ne vous ait changé en Colombie, mais revenons, s'il vous plaît, à votre désir.
Eh bien oui, à mon désir, et à mon désir bien vif.
Je ne suis point accoutumé à la solitude. J'ai toujours eu autour de moi une douzaine de gaillards, bons vivants et bien vivants, et je me soucie peu de m'assombrir dans ton hôtel du Havre. J'aime la société, surtout celle de la jeunesse. Tu dois recevoir ici des artistes et des savants. J'adore les savants et les artistes. Les premiers parce que je ne les comprends pas, les autres parce que je les comprends. Vois-tu, filleul, un marin n'est pas tout à fait un imbécile qui sait un peu de tout. Il a appris l'astronomie avec la grande ours et l'étoile polaire. la musique, avec les sifflements du vent dans les cordages, la peinture, avec les soleils couchants, eh bien, nous parlerons astronomie, musique, peinture, et tu verras que sur ces différents points, je ne suis pas plus bête que ceux qui en font leur état. Oh, sois tranquille, à part quelques termes de marine, tu n'auras pas trop à rougir de moi. Au reste, quand je me lancerai par trop, nous conviendrons d'un pavillon que tu arboreras, et je mettrai ma langue au capot. »
Que dites-vous donc là ? Ah, la vérité. Voyons, une dernière fois, la chose te convient-elle ainsi ?
C'est-à-dire que j'accepte avec joie.
Eh, bravo, alors me voilà le plus heureux homme de la terre. Mais, dame, tu sais, quand tu auras besoin d'être seul, quand viendront les jolis modèles et les grandes dames, je vire de bord.
C'est convenu.
Bon. Le capitaine tira sa montre.
Ah, 6h30, fit-il.
Oui, dit Pétrus.
Eh bien, où dînes-tu d'habitude, garçon ?
Un peu partout.
Ah, tu as raison, il ne faut mourir nulle part.
Dîne-t-on toujours bien au Palais Royal ?
Comme on dîne au restaurant, vous savez.
Véfour, Véry, les frères provençaux, cela existe-t-il toujours ?
Plus que jamais.
Allons dîner là.
Alors vous me donnez à dîner ?
Je te donne à dîner aujourd'hui, tu me donneras à dîner demain, et ainsi nous serons quittes, monsieur le susceptible.
Laissez-moi changer de redingote et de gants.
Change, garçon, change.
Pétrus s'avança vers sa chambre.
À propos,
Pétrus se retourna.
Tu me donneras l'adresse de ton tailleur. Je veux me faire habiller au goût du jour.
Et puis, voyant le chapeau de Pétrus à travers la porte de sa chambre entrouverte.
Ah, fit le capitaine, on ne porte donc plus les chapeaux à la Bolivar ?
Non, on les porte à la Murillo.
Ah, je garderai cependant le mien, en souvenir du grand homme auquel je dois ma fortune.
Ah, c'est d'un bon cœur et d'un grand esprit, mon cher parrain.
Ah, tu te moques de moi ?
Pas le moins du monde.
Va, 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 oh, j'ai bon dos, moi, et je puis porter plus que tu n'en mettras jamais dessus. Mais voyons d'abord, où me loges-tu ?
Au-dessous de moi, si vous voulez, j'ai là tout un appartement de garçon qui vous ira à ravir.
Garde ton appartement de garçon pour une maîtresse qui te demandera à être dans ses meubles. Moi, je n'ai besoin que d'une chambre, et pourvu que dans cette chambre il y ait un cadre, des livres, 4 chaises et une map-montre, je n'ai pas besoin d'autre chose.
Je commence par vous dire, mon très cher parrain, que je n'ai aucune maîtresse à mettre en chambre, et que vous ne me privez de rien en prenant un appartement que je n'habite pas, et qui est destiné à servir de retraite à Jean Robert le jour de ses premières représentations.
Ah, Jean Robert, un poète à la mode, oui, oui, connu.
Comment connu ? Vous connaissez Jean Robert ?
J'ai vu jouer son drame, traduit en espagnol à Rio de Janeiro. Je le connais.
Mais, mon cher filleul, tout loup de mer que je suis, il faut que tu saches ceci, c'est que je connais infiniment de gens et de choses. Sous mon air de marin du Danube, je t'étonnerai plus d'une fois, va.
Ainsi, l'appartement au-dessous du tien est à vous.
Cela ne te gêne en rien.
En rien.
Va donc pour l'appartement de dessous.
Et quand voulez-vous en prendre possession ?
Demain,
ce soir.
Voulez-vous y coucher ce soir ?
Dame, garçon, si cela ne te dérange pas trop.
Bravo, parrain, dit Pétrus en tirant le cordon de la sonnette.
Que fais-tu ?
J'appelle mon domestique pour qu'il prépare votre appartement.
Le domestique entra et Pétrus lui donna les ordres nécessaires.
Où faut-il que Jean aille prendre vos malles ? Demanda Pétrus au capitaine.
Oh, je m'en charge, dit le marin.
Puis, à demi-voix, j'ai des adieux à faire à mon hôtesse, dit-il en regardant Pétrus d'un air significatif.
Parrain, dit Pétrus, vous savez que vous pouvez recevoir chez vous qui vous voulez. La maison n'est pas un cloître.
Merci.
Puis, à demi-voix, à son tour, « Il paraît, ajouta Pétrus, que vous n'avez pas tout à fait perdu votre temps à Paris. »«
Ah, je ne t'avais pas encore retrouvé, mon cher enfant, dit le capitaine, il fallait bien me faire une famille. »
Le domestique remonta. « L'appartement est tout prêt, dit-il, et il n'y a que les draps à mettre au lit. »
À merveille, a-t-elle en ce cas? Puis au capitaine, en passant par la porte de votre appartement, voulez-vous entrer, dit-il? Je ne demande pas mieux, quoique, je le répète, nous soyons assez peu difficiles, nous autres vieux écumeurs de mer. Pétrus passa le premier pour montrer le chemin à son hôte, et ouvrant la porte de l'entresol, il le fit entrer dans un appartement qui était bien plutôt un nid de petite maîtresse qu'un logis d'étudiants ou de poètes. Le capitaine parut demeurer en extase devant les mille curiosités qui émaillaient les étagères. « Ah, ça, c'est un appartement de prince royal que tu m'offres là. »« Bon, dit Pétrus, qu'est-ce qu'un appartement de prince royal pour un nabab comme vous ?» Au bout de 10 minutes, pendant lesquelles le capitaine ne cessa point de s'extasier, le domestique vint annoncer que le cheval était à la voiture. Le parrain et le filleul descendirent bras dessus, bras dessous. Arrivé devant la loge du concierge, le capitaine s'arrêta. « Avance ici, Lascar, dit-il au portier. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» demanda celui-ci. « Fais-moi le plaisir d'arracher toutes les affiches qui annoncent la vente pour dimanche et de dire aux amateurs qui viendront demain. « Eh bien, demanda le concierge, tu leur diras que mon filleul garde ses meubles. En route !» Et, sautant dans le coupé qui faillit s'effondrer sous son poids, « Ô frères provençaux » cria-t-il. Pétrus monta derrière le capitaine et la voiture partit rapidement. « Ah, par la carcasse de la Calypso que nous avons trouée, ton père et moi, comme une écumoire, tu as là un joli cheval, Pétrus, et c'eût été dommage de le vendre. »